France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Delphine Panique. Je voulais vous dire merci pour ce livre vieil que j'ai vraiment adoré. Ce décalage entre un humour très mordant et l'image qu'on peut avoir de personnes vieilles.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À l'intérieur du mot vieillesse, prière de continuer à lire le mot vie aujourd'hui dans votre book club. Dans la dernière bande dessinée de Delphine Panique, quelques scènes brossées en traits simples et précis racontent la vie d'une femme âgée qui emmerde, je cite, ceux qui pensent qu'elle n'a pas remarqué ses poils au menton. Elle les a tout à fait remarqués et elle vous emmerde. Pour rompre un peu avec sa solitude, choisie plutôt que la longue soumission familiale, elle demande à un vendeur de lui attraper le paquet le plus haut du rayon. Et puis non, elle n'en veut plus. Bref, elle est aussi agaçante que rendue invisible par le regard d'une société qui nous veut jeune, parfaite, paridée, de bonne humeur et disponible sexuellement. Cette vieille dame se demande quand et comment elle va mourir. Elle rêve de Venise, elle désire encore, elle entend les chiens converser et se risque parfois à de très vastes questions sur l'existence. Fait-elle encore partie du monde? Aime-t-elle vivre? A-t-elle des regrets? Vieille, c'est le titre de cette BD et Delphine Panique est notre invitée. Nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Delphine Panique.
Bonjour.
Bienvenue dans le Book Club Vieille apparue aux éditions Misma. Votre travail a fait l'objet d'une grande exposition lors du dernier festival à Colomiers, une exposition dans laquelle on pouvait notamment voir quelques ouvrages de votre bibliothèque exposée. Ça tombe bien, c'est toujours comme ça qu'on commence ici au Book Club, par vous présenter en tant que lecteur et lectrice, nos invités, mais il y avait aussi des planches originales, d'autres bandes dessinées comme par exemple Orlando ou encore une autre BD qui s'appelle En temps de guerre ou encore Un beau voyage. On va évidemment parler de Vieille tout à l'heure, ce sera au cœur de notre conversation parce que c'est l'actu, parution comme on dit, mais on va évoquer votre travail en général. Donc je rebondis sur cette exposition qui traitait de votre art, de votre œuvre, mais aussi une partie de votre bibliothèque qui était exposée. Mathilde Wagman, qui était au festival, a fait pour nous des photographies. Alors, je ne sais pas, par exemple, dans cette bibliothèque exposée, il y avait Monique Wittig, il y avait Virginia Woolf, il y avait Anouk Ricard, il y avait William Faulkner, Annie Ernaux, Jane Austen. C'est une sorte d'équivalent de votre vraie bibliothèque ?
Ouais, c'était un petit condensé choisi de ma vraie bibliothèque, ouais. Avec donc beaucoup de classiques, puisque moi j'ai fait des études de lettres modernes, donc c'est quand même de ce milieu-là, de ce monde-là que je viens, de la littérature classique, enfin des classiques de la littérature. Mmh. Et voilà, et j'avais envie de mettre tout ça. J'avais choisi quand même en particulier des livres qui m'ont particulièrement influencé pour certains de mes livres, quoi.
Quelle que soit la période de votre vie, quoi. Ça, c'est plutôt des lectures passées, présentes, c'est votre bibliothèque d'imaginaire, de travail.
Ouais, c'est ça, plutôt d'adulte quand même.
Alors, si on remonte justement à l'enfance, est-ce que vous grandissez dans un endroit où il y a des livres autour de vous ?
Ouais, tout à fait. Oui, il y avait des livres chez moi, il y avait beaucoup de livres du côté de ma mère, beaucoup de livres de romans, de philo, etc. Et mon père avait plus des BD, lui.
Ouais. Et vous avez navigué entre les deux très tôt ?
Ouais, moi j'étais plutôt BD quand même, petite, ouais. Et puis ma mère, donc grande lectrice, elle nous faisait la lecture aussi. Ça a commencé. Moi, j'ai deux grandes sœurs, donc j'ai profité, je pense, en étant la plus petite, j'ai profité de lectures qui étaient peut-être pas forcément de mon âge, mais enfin, en tout cas, je suis arrivée.
Profiter parce que c'était dedans. Dans l'air, parce qu'on vous entendiez les choses se raconter.
Ouais, parce que je pense qu'elle nous faisait la lecture pour nous trois, mm-hmm, le soir en même temps. Ouais.
Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça, d'histoires un peu trop, peut-être trop grandes pour vous ou trop en avance pour vous, mais que vous auriez aimé ?
Alors ça, c'était en particulier les BD, où ça, c'était clairement des lectures pas de mon âge. Parce que c'est vrai que chez moi, il y avait pas de censure de BD, elles étaient toutes mélangées.
Accessible, ouais.
Voilà. Et donc assez tôt, je suis allée quand même m'intéresser à des choses, des BD pour adultes qui avaient beaucoup mon père, dont des trucs un peu, des BD des années 70-80 pour les papas, quoi, érotiques et autres.
Et donc, du coup, il y avait à la fois une découverte du côté des émois sexuels et érotiques et de la bande dessinée. Ça allait ensemble.
Ouais, c'est ça. Et après, du côté de ma mère, elle faisait vraiment notre éducation...
littéraire.
Ouais, et même mythologique, même biblique, même. C'était, en fait, je viens pas du tout d'une famille religieuse, je suis pas baptisée, on est très athée. Mais elle nous lisait une espèce de Bible, je sais plus, ça s'appelait la Bible illustrée pour les enfants, un truc comme ça. Et elle nous lisait ça comme des histoires, quoi. Et donc nous on a connu,
et
on a
eu cette culture-là. Vous vous souvenez d'épisodes qui vous auraient marqué particulièrement dans cette Bible
illustrée ? Ouais, bah oui, bien sûr. Bon, il y avait tous les trucs de l'Ancien Testament qui étaient quand même assez rocambolesques. Et puis il y avait, bah nous avec mes sœurs, forcément, ça nous faisait rire le coup du plat de lentilles, voilà, de Abel et
Cain.
Abel et Cain, exactement. Merci. Voilà, bon, il y avait des histoires qui revenaient et que nous on voyait vraiment pas du tout comme des trucs religieux, comme des contes, quoi.
Après la sortie de l'enfance, est-ce que la lecture a pris une place particulière dans votre vie, Delphine Panique ?
Alors oui, en même temps, j'ai jamais été non plus une lectrice compulsive, pas comme ma mère en tout cas. Mais voilà, toujours entourée de livres. Et puis je pense qu'il y a un moment où je me suis dit, où j'ai un peu tilté, c'est, je me souviens, au collège, j'avais un prof de français qui était super, et qui, à un moment, donc c'était pas au programme, mais qui nous conseille de lire Madame Bovary, en nous disant qu'il faut le lire. Et là, moi, je suis son conseil, je lis ça, et en fait, j'adore ce livre.
Collège, vous avez 12-13 ans.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je me rends compte que mes petits collègues, non seulement ils l'ont pas lu, ou alors ils l'ont commencé, ils ont trouvé ça nul. Donc moi, je me retrouve à avoir quand même un peu honte de dire que j'ai aimé. Mais en même temps, je me rends compte que vraiment j'ai aimé. Et donc, à partir de là, je pense que ça m'a mis un peu dans la tête, voilà, une petite graine qui m'a poussée, qui m'a conduite à faire des études de lettres.
Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous attrapez de Madame Bovary à ce moment-là, aussi jeune ?
Eh ben, je m'en souviens pas très bien, non. Je me souviens que le prof nous l'avait présenté comme un roman qui parle de rien, ce qui est pas vrai.
Enfin, c'était l'ambition, en tout cas, dans sa correspondance. C'est
oui, voilà. Ouais. Mais bon, en fait, bon, moi, j'étais un peu, en lisant, je me disais...
Mais pas du tout, ça parle de plein de choses.
Il y a plein de choses. Et...
Il vous avait dit, donc, un roman qui parle de rien.
Ouais, donc je me souviens pas plus de ça.
Ouais.
Et en tout cas, ça m'avait intriguée suffisamment pour le lire.
Est-ce que quelque chose de la langue vous avait plu ?
Ouais, ça c'est sûr. Oui. Je pense que c'était ma première lecture avec des longues descriptions comme ça. Et puis lecture classique aussi de ce style 19e français. Voilà, dans lequel c'est un style. Actuellement, c'est des lectures un peu réconfort pour moi. Je sais pas si je lis un Balzac ou quoi. Enfin, je sais pas. Je me sens bien dedans.
Chez quoi, vous,
c'est...
quoi.
Ouais, c'est familier, c'est agréable. Ouais.
Et alors, quand vous commencez ces études en lettres modernes, vous êtes déjà au dessin ? Vous dessinez déjà ?
Ouais. Alors le dessin, j'ai toujours dessiné. J'ai jamais arrêté de dessiner. Et d'ailleurs, avant d'aller en lettres modernes, je suis passée très rapidement. Enfin, mon idée, c'était de faire les beaux-arts. J'ai fait 3 mois de beaux-arts, ça m'a déçu. Ouais. Et donc.
Qu'est-ce qui vous a déçu ? Ou déplu ?
Ce qui m'a déçu. Alors déjà, je trouvais que c'était pas assez. C'était un moment où j'avais envie d'apprendre. Mmh. Je trouvais que c'était pas assez théorique, les beaux-arts. J'étais très j'avais vraiment envie d'avoir un apprentissage en histoire de l'art et tout. J'étais très curieuse à ce moment-là, enfin toujours. Et il y avait ça, et puis il y avait le fait que c'était les beaux-arts. Ils nous demandaient un peu dès la première année d'avoir un peu un personnage, d'être quelqu'un, de se présenter, d'être un peu charismatique, ce que j'étais pas à ce moment-là du tout. Puis j'avais pas envie de faire ça, quoi. Voilà. J'avais envie d'apprendre, moi.
Mais donc, le dessin est toujours là, vous continuez à dessiner, et ouais. Hop, virage vers les lettres modernes.
C'est ça. Et je pense qu'aux Beaux-Arts aussi, j'ai peut-être pas apprécié qu'ils essaient de m'apprendre le dessin. Je crois que je me disais, non, mon dessin, c'est mon dessin, il est comme ça. En fait, je pense que déjà à ce moment-là, je m'en foutais de savoir faire une perspective, de faire un bonhomme avec une morphologie parfaite. Enfin, voilà. ça m'intéressait pas.
Mais c'est fort d'être assez sûr de son trait comme ça à cet âge-là, c'est
bah, beau. Je le conscientisais pas vraiment à ce moment-là. Je me suis juste rendu compte que ces cours me déplaisaient. Mais c'est vrai que après, bah, en avançant dans le dessin, ça s'est confirmé. Moi, c'est vrai que je fais pas du tout de dessin d'observation. Ça m'intéresse pas. Enfin.
C'est autre chose. On dira exactement en quoi consiste votre dessin, mais simplement peut-être pour aller à la croisée de ces deux moments de votre formation, Delphine Panique. En 2019, les éditions Gallimard vous proposent de travailler sur les classiques. Ça devient les classiques de Patrick. Et en effet, il y a des formes de chroniques dessinées, de classiques de la littérature où se rencontre votre grande culture littéraire, en tout cas celle héritée de ces études-là, et puis votre manière de dessiner. Est-ce que vous voulez bien dire un mot de cette aventure?
Ouais, tout à fait. En fait, ça vient pas de. Donc, c'est pas Gallimard qui me propose, c'est la revue Topo.
Ah,
ouais, okay. Oui. C'est la revue Topo qui avait été créée 4 ou 5 ans avant. Et donc, la rédac chef à ce moment-là, qui avait entendu parler de moi, me contacte et me dit on cherche quelqu'un qui a une bonne culture littéraire pour faire des chroniques littéraires en bande dessinée.
Voilà. Sur des classiques.
Alors ça, c'est moi. En fait, elle me laisse une liberté et c'est moi qui décide de faire ça sur les classiques. Voilà.
Et alors, ça donne quoi, par exemple, si on donne un exemple?
Donc, je commence. Le premier, c'est Madame Bovary. Voilà. Parce que il fallait reconnaître cette filiation, peut-être, ses origines collégiennes.
Et alors, ça prend quoi comme forme d'un seul coup, Madame Bovary, chroniquée par Delphine Panique? Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire?
En fait, j'ai créé donc un petit personnage qui s'appelle Patrick QE, voilà, qui est une sorte de mode de terre, de boule jaune comme ça, et qui lui est le narrateur. Donc, il raconte, il parle à la fois, il fait un petit résumé, il parle aussi de l'auteur ou de l'autrice. Et puis il donne son avis quand même. Voilà. Et Patrick a un avis toujours un petit peu, je sais pas comment dire.
Tranché, on va dire.
Tranché, ouais, je sais pas. En tout cas, des fois un peu politique, des fois un peu décalé, peut-être. Voilà. Et puis à chaque fois, ce qui était très important pour moi, c'était de mettre des citations aussi. Voilà. Parce qu'en fait, donc la revue Topo, elle s'adresse aux adolescents. Et je me disais, je trouvais ça super important que les ados, ils aient accès à un résumé d'œuvre, parler vite fait de l'écrivain, et puis avoir accès au style, quoi, ce qui est super important. Donc j'ai fait ça, ouais, je me suis.
Et alors après Madame Bovary, par exemple, et Marguerite Duras.
Voilà. Alors oui, je m'étais mis quand même une contrainte très stricte, qui était de respecter une mixité stricte. Voilà. Ça me faisait rire. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rire parce que évidemment.
La mixité stricte.
Ouais. Alors ouais. Voilà.
Bah oui. Bah chacun. Bah, chacun ses blagues.
Ouais, ouais, ouais. Parce que forcément, donc à la rédaction de Topo, ils me disent, oh là là, ça va être compliqué. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas y arriver? Et donc, moi, je leur dis, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Il n'y a pas de souci. Et parce qu'il fallait rester dans les classiques. Bon, voilà. Alors après, il pouvait y avoir des débats. J'ai traité Toni Morrison. Bon, il me disait, est-ce que c'est un classique? Je leur ai dit oui. Et puis voilà, fin du débat.
Et donc vous avez, par exemple, donc travaillé sur Marguerite Duras, sur Toni Morrison, qui a eu d'autres encore dans les classiques de Patrick.
Alors il y a eu, il y a eu l'Iliade, forcément. Il y a eu Rabelais, Le Carre-Livre. Il y a eu Moby Dick. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Dostoïevski, Crime et Châtiment.
À chaque fois, ça supposait une relecture de votre part, un travail.
Ah ouais. Oui. Ouais. Donc à chaque fois, c'était des livres que j'avais déjà lus et que je relisais. C'était un énorme boulot, relisais, annoter. Moby Dick, voilà. Moi, j'avais 9 pages de bande dessinée. Donc par exemple, Moby Dick, faire un résumé, un petit extrait.
Un commentaire de Patrick.
Un commentaire en 9 pages, c'était compliqué. Donc je remplissais des carnets de notes, d'extraits, de citations. Ensuite, j'essayais de condenser ça et de choisir ce dont j'allais parler. Forcément, faire un choix, c'est renoncer. Voilà. Donc c'était très dur pour moi.
Et ça s'appelle donc Les classiques de Patrick et c'est paru aux éditions Gallimard, regrouper toutes ces chroniques.
Oui, voilà, et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'en avais pas mal et donc j'ai proposé ça à Gallimard d'en faire un recueil.
Aujourd'hui, ça tient quoi comme place la lecture dans votre vie, Delphine Panique ?
Eh bien, ça tient beaucoup de place. Alors, comme je disais, je lis pas tous les jours. J'ai des grandes périodes où je lis pas. Par contre, j'ai un rapport assez intense à la lecture, voilà, assez passionnel, quoi.
Ça donne quoi ?
Ben, ça donne que, par exemple, si ça me plaît pas, de plus en plus là dernièrement, si je suis pas dedans, j'arrive pas à continuer. Voilà.
C'est marrant que les gens s'excusent régulièrement à ce micro de fermer des livres parce qu'ils s'ennuient.
Ouais, grave, mais pour moi c'est dramatique parce que ça fait seulement quelques années que je fais ça. Et donc ma maison est jonchée de...
De livres où vous êtes ennuyée ?
De livres ouverts, commencés, pas terminés.
Donnez-les.
Non, parce que je les garde, je me dis je vais les finir.
Seconde chance.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et vous êtes une bonne âme de lectrice.
Ouais, vous avez de l'espoir pour... Non, puis mes livres, j'arrive vraiment pas j'ai même du mal à les prêter. Non, je suis pas très très matérialiste, mais j'ai un rapport à l'objet livre un petit peu voilà, intense, comme je disais, fusionnel. Ouais.
On va parler de votre dernier livre à vous. Il s'appelle Vieille. Il est paru aux éditions Misma. On le fait juste après la voix de Brigitte Fontaine et sa chanson Sac d'os.
Carabosse, sac d'os. De noces, tatouage bleuté, aux maigres mains de fée, bobonne des planètes, madone des tempêtes, colibri morfondu sur les fleurs en tissu, parturiante qui chante. Des pièces ravissantes, corsage suranné et téton surmené. Je ne fais pas de phrases parce que ça écrase. Carabosse, sac d'os, en carrosse de noces, orgueil humilié. Rolls-Royce dans le fossé. Oh, poureuse jambon. Clair tunnel en béton. Digital pour prêt. Oh, précieuse poupée. Porcelaine brisée. Poudre rose à sniffer. Folie polyfibreuse. Boule vertigineuse, ne faites plus vos jeux. Rien ne va plus, messieurs. Carabosse, sac d'os, en carrosse de noces.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Parfois, mettre les choses dans les cases, ça n'est pas une bonne idée du tout. Ça rétrécit la vie et notre vision du monde. Et parfois, au contraire, c'est magique. Ça ouvre le regard, permet de le poser sur des corps et des situations sur lesquelles on ne s'attarde pas assez. Dans votre dernière bande dessinée, Delphine Panique, au programme de notre book club, une femme, vieille, se donne la main à elle-même, comme ça, une nuit, pour s'endormir, et doit bien avouer que cela lui plaît un peu de contact humain. Ces six cases, c'est du rose, du noir, du gris, et voilà attrapée dans une économie de mots et de traits un peu de la solitude. solitude de certaines personnes qui ne sont plus touchées. Mais cette femme ne se résume pas ni à son âge ni à cela. Il y a aussi, contenu dans sa marche lente et fragile, toute la vie qu'elle a vécue, tout ce qu'elle a appris, les élans de méchanceté ou de tendresse qu'elle a pour notre monde contemporain. On parle de votre bande dessinée cet après-midi. Elle s'appelle Vieille et elle a paru aux éditions Misma. On rencontre ce personnage, Vieille, dès le départ de votre bande dessinée, à la fois par sa silhouette qu'on va avoir le temps de détailler avec vous, mais aussi par sa voix, la manière dont immédiatement, c'est comme si on l'entendait, Delphine Panique. Comment est-ce qu'elle vous est arrivée à vous, ce personnage ?
Difficile de dire comment un personnage arrive. En tout cas, j'ai eu une sorte de commande, entre guillemets, d'un ami qui fait une revue qui s'appelle Bento, une revue enfin sous forme de fanzine quoi, qui est pas distribuée, qui est un... et voilà, il m'avait proposé de participer à ça
sans thématique.
Si, alors avec deux contraintes, il m'avait dit il faut que ce soit de la BD sociale et ensuite il faut que ce soit des pages très denses. Voilà. Et donc
qu'est-ce qu'il entend par BD sociale?
Ben, qui parle de problématiques sociales, quoi.
Ok.
Voilà. Ouais. Oui, c'est large, hein.
Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est juste pour savoir s'il y avait une idée précise dans cette
proposition. Ouais, non, c'était très large, très ouvert. Et donc, voilà. Et cette vieille arrive à ce moment-là. Pourquoi, honnêtement, je sais plus. En tout cas, je me souviens que je fais très rapidement sur un carnet, parce qu'en fait, dans mes carnets, il n'y a pas de dessin du tout, quasiment pas. Il n'y a que de l'écriture. Mais pour l'expo de Colomiers dont on a parlé, comme je suis allée fouiller dans mes carnets, je suis retombée sur une page où il y a deux petits dessins d'essais quoi pour le visage de cette vieille.
Alors on essaye de le décrire. Sur la couverture, elle apparaît comme une sorte de petite boule qui tire un caddie. Et si c'est son visage?
Ouais, et oui, bah voilà, en fait, dans ces deux essais, j'essayais encore de faire les éléments de son visage, quoi, un nez, une bouche et tout. Et en fait, ces deux essais n'allaient pas. Et donc, très rapidement, j'en viens à une forme un petit peu spongieuse, où les éléments sont pas presque plus visibles, quoi.
Ouais, elle est comme prise dans les replis de sa peau, de ses rides.
Ouais, c'est ça.
Et son corps, lui, est une sorte de boule.
Ouais, de boule.
Qui ne laisse plus tellement voir ce qu'on pourrait appeler une silhouette détaillée, quoi.
Non.
Voilà.
Non. Avec des tout petits bras, des tout petits pieds.
Et quand je dis que moi, j'ai entendu sa voix immédiatement, dès la première planche, est-ce que vous aussi, ça se présente comme ça, une sorte de personnage? Ça vous arrive aussi avec un langage, une rythmique, une manière de parler, de s'adresser aux gens, au monde?
En tout cas, tout de suite, je savais que j'allais faire ces quelques pages, donc, que je propose pour Bento. Parce que, à ce moment-là, je me dis pas du tout que ça va devenir un livre, hein. Je fais donc les trois pages qui sont les trois premières pages du livre. Et donc, je l'ai fait tout de suite à la première personne. Voilà. Puisque, je sais pas ce que je me dis à ce moment-là, mais effectivement, quitte à traiter un personnage aussi différent de moi ou pas, bon, ça c'est une autre question.
On en discutera.
Mais en tout cas, très caricatural, au moins dans les premières pages, il fallait que je me fasse le plaisir d'être avec elle dans sa tête.
On va pas entendre les premières pages, c'est une planche où elle va visiter une grotte, elle est avec sa petite nièce.
L'autre fois, j'étais à la grotte des demoiselles avec ma petite nièce, Juliette. Julie. Non, Roxane. Bon. Elle m'emmène en voiture. Elle est gentille. Arrivée là-bas, on monte dans un périph', un téléphérique, un funiculaire. Oh, madame, vous savez, il y a pas mal de marches ici, ça va être trop difficile pour vous. Je lui réponds même pas à ce trou du cul. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, je vais l'aider. La première fois que j'ai visité cette grotte, t'étais même pas née face de paix. Juliane, elle est passionnée. Et maintenant, la salle la plus spectaculaire. Oh, incroyable! Regarde ça, Roxette, on dirait moi. J'ai traversé les époques. Certaines sont si lointaines, je ne m'en souviens même plus. Les années ont forgé mon apparence. je suis faite de débris de cadavres de poissons, de baleines. L'eau et d'autres fluides ont coulé sur moi. Ils m'ont fait changer, grossir, gonfler. Je suis si vieille, cachée dans les profondeurs. La nuit, je reste seule. Tout le monde m'oublie, mais je suis là.
Un premier extrait de votre bande dessinée Vieille, Delphine Panique. On entend cette voix, donc c'est évidemment toujours délicat de rendre la bande dessinée à la radio, parce qu'il manque une des jambes sur lesquelles ça marche. Mais cette vieille dame qui finalement se confond avec la roche d'une grotte très ancienne, et d'un seul coup c'est elle, et c'est elle qu'on pourrait venir admirer. D'ailleurs, dans une autre planche, elle dit « Tiens, imagine, les gens, ils pourraient se poster devant moi, ils regarderaient mon corps et mon visage, et ils penseraient au temps qui passe. » Vous le disiez, elle est caricaturale, ou pas ? Finalement, qu'est-ce que vous trouvez caricatural dans ce personnage de vieille ? Parce qu'elle n'est pas toujours sympa, oui, elle est vulgaire, mais peut-être que c'est ce qui se passe dans la tête des personnes plus âgées qui nous entourent.
Oui, en fait, je disais ça par rapport aux toutes premières pages du livre, parce que justement, ça a été un questionnement assez important pour moi. C'était vraiment ce que je voulais faire dès le départ, c'était parler d'une vieille dame, justement, sans aller dans cette caricature qu'on a d'habitude dans la fiction, c'est-à-dire soit la vieille acariâtre, sorcière et tout.
Soit gâteau, quoi.
Soit gâteau, exactement. Et sauf que pour aller là-dedans, enfin moi, je voulais quand même qu'elle ait un sale caractère, quoi. Et que, justement, qu'elle soit libre, qu'elle en ait plus rien à foutre et qu'elle dise ce qu'elle a envie de dire. Donc je suis allée, en fait, d'un côté de la caricature, quand même, dans ce côté acariâtre. Et ensuite, c'est vraiment quand j'ai commencé le travail sur le long, au moment où je savais que ça allait devenir un livre, que j'ai commencé à complexifier ce personnage-là et à rajouter ses souvenirs, ses fantasmes, ses pensées personnelles pour justement sortir de cette caricature-là.
Et la complexifier. Et d'ailleurs, il peut y avoir dans une même planche quelque chose qui va être plutôt vindicatif ou très maladroit ou même frôler le racisme. Et puis, juste une cage d'après, quelque chose de plus tendre. Enfin, voilà, où ça devient une personne à part entière. Vous disiez, dans les représentations, les femmes vieilles ou les personnes âgées, elles sont ou ceci ou cela. Est-ce que vous êtes un peu intéressée à la fin de la bande dessinée ? Vous rendez hommage à quelques références pas bien caché, dites-vous, à quel peut-être vous, simplement vous faites signe. Vous êtes allé voir, et dans la littérature et dans le cinéma, des personnages de vieilles femmes qui vous intéressaient ?
Bah alors, en bande dessinée, on me parle tout le temps de Carmen Cru.
Qui est Carmen Cru ?
Eh ben, Carmen Cru, c'est cette bande dessinée, mais dont j'étais pas spécialement fan, d'ailleurs, parce que, je la détestais pas, cette bande dessinée. À la fois, ça me faisait rire, et même petite, je me souviens que ça m'énervait, quoi, que parce que là, pour le coup, elle est que moche et méchante et drôle en même temps. Mais à aucun moment on se dit elle a peut-être été autre chose dans sa vie, et c'est une femme qui a vécu une vie de femme, quoi. Et je crois que déjà petite, quand je lisais Carmen Cru, ça me questionnait ça.
Et alors, d'autres personnages qui vous auraient plus intéressé, par exemple, vous citez Le Voyage de Chihiro, ça peut être aussi dans ses films d'animation.
Ouais, c'est ça. Et alors, je suis allée chercher un petit peu dans les œuvres japonaises. Et puis, il y a Mizuki, par exemple, aussi, avec Nononba, qui est un livre que j'adore, qui est une très, très grande référence pour moi. Et là, et puis chez Miyazaki, bien sûr, il y a des vieilles qui sont extraordinaires.
Et alors, pourquoi ces vieilles-là, elles vous inspirent plus, Delphine Panique ?
Mais parce qu'on n'en a pas dans la fiction chez nous, des vieilles comme ça, qui sont à la fois toutes petites, toutes moches, gros caractère, et en même temps ultra puissantes, et en même temps qui peuvent être comme dans Chihiro, qui est à la fois super méchante, mais en fait, avec son gros bébé, tellement aimante, et puis, qui est un personnage complexe, quoi, qui peut être à la fois très cruel, très généreux, comique, en même temps sérieux, il y a tout dans ces personnages-là, ces vieilles chez Miyazaki, Et ouais, donc il a fallu que j'aille creuser un peu de ce côté-là, du côté japonais.
Pour bâtir votre vieille à vous, dans la bibliothèque que vous exposiez au festival BD Colomiers, qui rendait hommage à votre travail par une exposition, il y avait la figure de Simone de Beauvoir. On l'écoute ici dans une archive de 1969, au moment où paraît justement son essai sur la vieillesse.
C'est en partant de tout un faisceau d'idées sur la vieillesse, puisque finalement la vieillesse, j'en approche, et tous mes amis en approchent, et j'ai même des amis qui sont plus âgés que moi, qui vraiment ont déjà abordé cette période de leur vie. Mais il y a aussi l'énorme scandale auquel je suis très sensible, de la manière dont les vieux sont traités dans notre société aujourd'hui, parce que ce sont vraiment les parias de cette société, comme d'ailleurs aussi de la société américaine. Et ici en France, on voit, si on va, je sais pas moi, faire son marché, ça j'en ai parlé dans la discrétion, mais c'est une chose qui m'a beaucoup frappée, on voit des pauvres vieilles femmes qui sont là en train de ramasser des morceaux, des bouts de laitue, des bouts de ragaton de pomme, n'importe quoi, parce qu'elles n'ont vraiment pas de quoi, au jour le jour, vivre et même simplement manger. Alors, il y a ça, il y a la misère matérielle, il y a la solitude aussi, la misère morale de tous ces vieux. Il y a les conditions de vie dans lesquelles on les oblige à stagner. Et ça atteint un nombre considérable de gens, à peu près, je crois, 3-4 millions de personnes qui sont vraiment dans l'indigence et l'infirmité et la misère. Et c'est tout ça que j'ai voulu dénoncer.
Le scandale de la vieillesse dans la voix de Simone de Beauvoir, c'est aussi un mot qui vous intéresse, Delphine Panique, dans votre bande dessinée Vieille. Est-ce que cette lecture-là du texte de Simone de Beauvoir et peut-être aussi sa lecture en féministe et en intellectuelle des âges avancés de la vie, ça a été important pour bâtir ce personnage et cette BD ?
Ouais, bien sûr, oui, ça a été une lecture qu'il fallait faire, que j'ai faite avant même de commencer le livre. Voilà, pour pouvoir avoir les bases, alors pas toutes les bases, hein, bien sûr, les bases de Simone de Beauvoir, pour pouvoir parler de ce sujet, ouais.
Il y a quelque chose dans ce scandale de la vieillesse qui a à voir, je cite, avec la manière dont la société, donc à l'époque, fin des années 60, début des années 70, traite les personnes âgées. Quelques décennies plus tard, les choses n'ont que trop peu évolué. Vous disiez que la commande initiale, c'était une BD sociale, donc à dimension aussi de critique sociale. Quelle place prend ce regard sociétal dans le travail que vous avez fait pour cette bande dessinée ?
Ben, quelle place il prend, je sais pas, c'est compliqué pour moi de le dire, c'est peut-être plus aux lecteurs et lectrices de le voir, quoi, parce que, en fait, moi, c'est quelque chose dont je parle sans en parler, enfin, j'ai l'impression que, enfin, c'est ce que j'ai voulu faire, en tout cas. Donc, on suit son quotidien avec ses difficultés, et après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens que ça fait beaucoup rire, ce livre, et d'autres que ça touche beaucoup plus. Selon,
et d'autres les deux, non?
Ouais, et aussi les deux, mais voilà, je pense que les lectrices et lecteurs se sentent pas tous concernés de la même manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, oui, effectivement, cette problématique, elle a quand même peu changé depuis ces paroles de Simone de Beauvoir. Et puis en plus, bah moi quand je l'ai commencé, c'était au moment du Covid, qui a quand même posé pas mal de questions aussi par rapport
ça
à ça.
Ça a joué peut-être quand même ce contexte de 2020 où la question du vieillage, de ce qu'on fait des personnes plus fragiles, plus vulnérables, était une question qui était d'un seul coup mise au milieu de la conversation publique, médiatique et politique.
Ah bah bien sûr, ouais, bien sûr. Et puis d'être confronté, enfin voilà, puis ouais, d'être réellement confronté à ça, à ces cas d'isolement, de gens qui mouraient dans l'isolement. Hein.
Simone de Beauvoir dit que penser la condition de la vieillesse est une manière de penser la condition humaine. Et vous avez décidé, Delphine Panique, de rythmer cette bande dessinée par des grandes questions existentielles. Penses-tu avoir réussi ta vie ou l'avoir ratée ? Regarde-toi. Penses-tu avoir réussi ta vie ou l'avoir ratée une deuxième fois ? Si tu le pouvais, que changerais-tu de ton passé ? Et en même temps, à chaque fois, c'est aussi comme contrebalancé par la petite voix de cette vieille qui dit « c'est pas bientôt fini ces questions à la con » ou « alors ta gueule ». Après, es-tu vraiment sûr de ne rien regretter ? Comme si on sentait chez vous que oui, bien sûr, l'arrivée à un certain âge de sa vie, c'était une possibilité de la penser, cette vie-là.
Bien sûr. Et est-ce qu'à un moment, il faut faire un bilan ? Est-ce qu'il faut se les poser, ces questions-là ? Elle, voilà, la forme que j'ai choisie pour ces questions-là, donc qui sont écrites en une très grosse typo qui flotte un peu au-dessus d'elle, petite, dans son fauteuil. voilà, on sait pas bien qui les pose, ces questions. Est-ce que c'est elle qui se les pose? Est-ce que c'est une espèce de, je sais pas, d'entité supérieure qui lui pose, on sait pas d'où ça vient. En tout cas, enfin, et puis pour moi, là-dedans, il y avait aussi une référence, bah, notamment à Monique Wittig ou à Volodine, dans ces espèces d'adresses au lecteur comme ça, sous forme de questions un petit peu directes, que j'ai toujours beaucoup aimé en tant que lectrice et que je trouve un peu magique, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans le livre qui s'adresse directement comme ça, brutalement à son lecteur.
Oui, parce qu'en effet, elle flotte ces grandes questions existentielles au-dessus de ce petit personnage, en tout cas rendu petit presque par la question. Mais d'un seul coup, ça peut aussi tout de suite être adressé à nous, c'est-à-dire « Sais-tu où vont les morts? Crois-tu être toujours vivante ?» Quand c'est imprimé très grand sur une feuille, ça sort de la seule histoire de ce personnage de vieille et ça vient nous demander à nous « Est-ce qu'on croit être encore vivant? Est-ce qu'on croit avoir réussi notre vie ?» etc. etc. C'est des questions qui circulent.
C'est ça. Et en même temps, elle répond « Ta gueule ».
Ta gueule.
Ouais.
T'as bientôt fini ces grandes questions à la
ouais,
con, là.
Ouais, c'est ça. Elle en a marre.
Ouais. Ouais. On va écouter la voix de Florence Dupré-Latour, une autrice qui parle justement de sa pratique de la bande dessinée pour travailler le réel.
Il y a d'autres auteurs qui vont plutôt essayer de se rapprocher d'une forme de réel. Et moi, j'ai besoin de m'en éloigner. Parce que ce réel, il a eu trop de prise sur moi. Il est encore trop présent. Et j'ai besoin d'en faire une sorte de boule qui devienne un ballon de foot dans lequel je puisse shooter. Et le fait de se transformer beaucoup en dessin et d'aller vers un dessin très simple. Moi, si on regarde attentivement, j'ai un dessin qui se fait en trois traits. Il n'y a pas grand-chose. Il est très loin du réalisme. Vraiment, il est très interprété. Mais il me permet d'aller vers un réalisme des sentiments. Puisque je vais raconter la vie intérieure de ce personnage-là en accentuant des émotions fortes qui sont le paysage intérieur de ce personnage et qu'on s'interdit de montrer dans la vie de tous les jours. On n'est pas là en train de grimacer, de se rouler par terre comme un petit enfant ou de remuer la queue comme un chien. Et c'est ce qu'autorise le dessin, en tout cas ce type de dessin. Et j'ai besoin de cet outil qu'est l'humour pour transformer le réel.
Florence Dupré-Latour au micro d'Antoine Léry sur France Culture en 2023, qui parle de l'outil du dessin, mais aussi de l'outil de l'humour pour transformer le réel, mais si on l'entend bien aussi, le penser. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez dire aussi de votre travail, Delphine Panic?
Ouais, tout à fait. Après, Florence, je l'adore, elle en parle très bien. elle le dit mieux que moi. Ouais, tout à fait. Après, dans mon cas, il y a aussi, comme je disais, comme je suis quand même autodidacte du dessin, ça n'a pas tellement été un choix pour moi. Voilà, parce que en fait, je me débrouille.
Qu'est-ce qui n'a pas été un choix? Un type de trait, par exemple?
Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, je suis nulle en perspective. Enfin, je sais pas faire ça. Donc, quand j'ai commencé, quand même, avec Orlando, il y avait un côté, il fallait que je me débrouille.
Orlando, c'est le titre d'une bande dessinée que vous consacrez à ce grand livre.
Ouais, pardon. C'est mon premier livre, donc, qui est sorti il y a 12 ans maintenant. Ouais.
Chez Misma aussi.
Chez Misma, exactement. Et donc, à ce moment-là, il fallait vraiment que je me débrouille avec mes possibilités au niveau dessin. Voilà.
Mais justement, ça devient un atout pour vous ?
Ça a été très, très fondateur. Ah oui. En fait, très rapidement, enfin, au moment d'Orlando, je ne me le formule pas, mais rapidement, je me rends compte que c'est un atout. Ouais. Parce que, en fait, le fait de me débrouiller avec ça m'oblige à être inventive. Voilà, être même super inventive. Et je pense que du coup...
Il y a des solutions à quel problème, par exemple, ou à quelle problématique ? Graphiquement parlant, j'entends.
Par exemple, moi, je peux pas, actuellement, je peux toujours... Enfin bon, je dis que je peux pas, peut-être je pourrais, mais en tout cas, je sais pas.
Peut-être vous voulez pas.
Non, je pense que je veux pas non plus, mais en tout cas, je peux pas me permettre de faire un récit, par exemple, un récit muet... je pourrais pas le faire, parce que mon dessin n'est pas suffisant à la narration et à décrire une action de manière suffisamment claire pour les lectrices et lecteurs. Donc, à partir de ça, j'utilise énormément ce texte dans des encarts, qui va être, bon là dans le cas de Vieille c'est énormément de la voix off, mais dans d'autres livres je m'en sers énormément, c'est une voix off mais...
De narrateur, quoi,
ouais, c'est narratrice. Ça. Ouais c'est ça, exactement. Et qui presque décrit l'action en fait. Souvent, mes bandes dessinées, en fait, on pourrait lire, alors pas dans l'extrait qui a été lu tout à l'heure, mais très souvent, on pourrait lire le texte et on a toutes les informations.
Ou presque.
Presque, parce que justement, du coup, je peux me permettre, dans le dessin, d'amener autre chose. Et des choses qui vont parfois être complémentaires, parfois être contradictoires.
Ou un mini décalage, ou un petit détail dans votre trait, ou un détail dans la scène qui fait que il y a quelque chose qui va se rajouter au texte,
voilà.
Qui va peut-être le twister. On entendait aussi dans la voix de Florence Dupré-Latour l'idée que l'humour c'est un outil pour penser avec le réel. Ben c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup et dans les textes et dans le dessin, Delphine Panic, l'humour.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, par exemple, mon dessin peut rajouter une touche humoristique à un texte qui est très sérieux, par exemple. Parce que mon texte va être très sérieux, et puis en dessous, on voit, j'en sais rien, un chien qui fait... Bon, je ne sais quoi, bon, bref. Donc voilà, donc finalement, ces petites technique là que j'ai dû développer pour pallier à un dessin qui était pas suffisant, je pense qu'elles m'ont amené sur la voie d'un mode narratif, un BD un petit peu original.
On va entendre la voix de Thérèse Claire, militante et notamment féministe, lesbienne et fondatrice des Maisons des Baba Yaga, parler de la vieillesse.
Dans le vieillage, je redouble de paroles et d'expliquer à tout le monde que la vieillesse ne ferme pas la porte du plaisir, elle le renouvelle. Nous sommes souvent solitaires, hélas, mais beaucoup de femmes me disent, j'entends souvent dans le fond d'une salle, mon mari est mort, parce que je leur parle de sexualité comme étant un sirop de jouvence, et j'entends une petite voix me dire, mon mari est mort. Alors il y a d'abord un immense éclat de rire, ce qui me rassure sur l'immoralité du monde, et je lui dis, mais madame, vous avez les chemins buissonniers, vous pouvez cueillir des fruits merveilleux. Alors elle n'a pas l'air de me comprendre. Quelques-unes comprennent.
C'est un langage trop fleuri, peut-être.
Oui, mais c'est un peu difficile quand vous êtes devant 300 ou 400 personnes de lâcher les mots bien crus. Donc, on emploie la métaphore. Moi, j'aime beaucoup la métaphore parce que ça fait rêver. Et chacun et chacune peut arranger la métaphore à son goût, à son imaginaire. Donc je lui dis cela. Et puis après, à la fin de la conférence, elles viennent, elles me disent, ah, vous avez raison, madame. Vous savez, un petit monsieur un jour qui m'a dit « Merci madame, vous m'avez ouvert des portes et maintenant je vais aller pratiquer. » Et je l'ai embrassé, il m'a fait rire, il était drôle cet homme.
Au début c'était un peu dur, je devais me débrouiller toute seule. Petit à petit, j'y ai moins pensé, l'envie a disparu. Même si j'aime encore regarder les fesses, imaginer les bites. Un jour, j'ai réalisé la chance que j'avais. Parce que entre les incestes, les viols, le devoir conjugal, c'est presque un privilège pour une femme de ne pas avoir de rapport sexuel. Et puis Diego est arrivé. Il venait tous les mardis pour faire les vitres. Au début, c'était juste des regards. Puis quand il passait derrière mon fauteuil, il m'effleurait la nuque. Et je tremblais de désir. Alors le jour où il a fait tomber sa raclette, pile entre mes deux jambes... Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu me crois pas ? Sale chat !
Un extrait de votre bande dessinée « Vieille Delphine Panique » et juste avant cela, la voix de Thérèse Claire au micro de Laure Adler en 2014 dans Hors-Champ pour évoquer ses conférences qu'elle donne autour du vieillage, qu'elle donnait autour du vieillage et de la sexualité. La place que tiennent les désirs anciens, les désirs actuels, la possibilité même de ressentir des émois physiques, d'être touchée est importante dans votre bande dessinée. Pourquoi ?
Parce que j'allais pas lui enlever ça.
Bah ouais.
À cette vieille dame. Ouais. Et je sais pas, c'est venu. En fait, ce livre, je l'ai construit vraiment assez lentement, quoi. J'avais pas du tout de scénario au départ, donc j'ai vraiment avancé petit à petit. Et c'est venu du fait, voilà, j'avais imaginé son entourage, que donc les gens sont tous jeunes autour d'elle, beaucoup plus grands, et puis tous vêtus de combinaisons. J'imaginais un espèce de futur très proche, tous vêtus de combinaisons très moulantes. Et donc, bah, forcément, je commençais à dessiner ça, puis je voyais que rapidement, en fait, ma petite vieille, elle avait souvent son visage qui était au niveau des fesses des gens quand on la voit dans les scènes où on la voit dans la rue. Et puis, donc voilà, donc dès les premières pages, il y avait ce truc où, bah, forcément, elle regarde toutes ces belles fesses moulées dans leur combi. Et puis, et voilà, et donc petit à petit j'ai développé ça. Elle se met, voilà, on la voit dans la rue, elle se met à rêver, quoi, en regardant des jeunes hommes en combi. Et puis là, bon, ce passage-là qui est quand même un peu glauque aussi, parce qu'il y a aussi un rapport. Bon, elle, elle a quand même des relents un peu racistes de temps en temps. Donc là, j'ai mis ce personnage, bon, enfin, il est douteux ce passage, quoi, qui lui fait ses vitres, qui s'appelle Diego, bon. Et puis elle fantasme dessus, puis elle commence à raconter qu'il se passe quelque chose. Enfin, voilà, il y a plein de choses au niveau... bon, il y a son fantasme à elle, quoi, mais après, au niveau des rapports de pouvoir, il y a des choses un peu douteuses dans ce passage-là.
Oui, notamment, il y a une personne dans une autre planche qui vient s'occuper d'elle, qui vient gérer un pansement autour d'une plaie, c'est une personne qui est noire, et il y a une conversation entre cette personne qui s'occupe très délicatement de son pansement et de sa plaie, et c'est tout à la fois l'incompréhension, l'ignorance, mais aussi quand même un racisme systémique et historique qui se glisse dans cette relation de soins, et où, ben, elle est clairement du mauvais côté de l'histoire, cette vieille Delphine Panique, et en même temps, elle profite du soin et de la douceur que cette personne lui prodigue. Donc, il y a une ambivalence aussi sur le fait de n'être pas touchée, c'est que parfois, elle n'est pas aimable, et peut-être pas suffisamment aimable pour l'être. Mais ce serait trop résumer les choses que de le dire comme ça.
Oui, parce que je pense que même si elle était aimable...
Malheureusement, elle ne le saurait pas beaucoup plus.
Elle ne serait pas touchée non plus, hein. Ben oui, parce que, enfin voilà, la vie est comme ça. Cette dame, voilà, elle a perdu ses maris. Et puis, on sent qu'elle est quand même heureuse aussi. Enfin bon, c'était dit dans le passage. Même son rapport à la sexualité est ambivalent, parce qu'en fait, là, ce qu'on vit, c'est ses fantasmes qui lui plaisent beaucoup. Mais quand elle parle d'une sexualité réelle, on n'est pas bien sûr que ça a été vraiment tout le temps merveilleux.
On a plutôt tendance à l'entendre décrire notamment la charge familiale, la charge conjugale, comme quelque chose qui l'a enfermée. Vieille, votre bande dessinée, c'est aussi une façon de parler, par exemple, de l'ancien couple de cette femme qui a réduit sa vie, qui l'a fait travailler gratuitement, qui l'a épuisée, qui l'a fatiguée, qui ne l'a pas épanouie. C'est aussi ça, ce grand âge et la manière dont elle regarde la vie passée.
C'est ça. Et on sent qu'elle est assez furieuse par rapport à ça, qu'elle est en colère. D'ailleurs, le livre, il commence comme ça, où en fait, elle croise un couple de jeunes avec... et elle dit qu'est-ce qu'elle a,
cette fille
à glousser, voilà. Alors que... je sais plus ce qu'elle dit exactement.
Alors qu'elles sont indépendantes, elle dit, mais elle comprend pas, parce qu'elle dit, mais je comprends pas, comme si le temps n'était pas passé, on a taffé pour qu'elles soient indépendantes, ces jeunes femmes, et elles sont encore à glousser devant ces jeunes hommes.
Elle dit, elle a le choix maintenant, elle est pas obligée de faire ça, et elle le fait quand même. Et elle est dans l'incompréhension, on sent qu'elle est dans la colère aussi.
Je voudrais qu'on entende la voix de Gwendoline, auditrice du Book Club. Elle a lu Vieille, elle vous en parle, mais elle veut aussi que vous nous parliez d'autre chose.
Bonjour le Book Club, bonjour Delphine Panique. Je voulais vous dire merci pour ce livre Vieille que j'ai vraiment adoré. Elle est assez punk, elle est là, poussez-vous, j'arrive avec mon caddie. Et en même temps, c'est aussi assez mélancolique, assez triste par moments. Et vraiment avec votre humour mordant, j'ai ri aux éclats et j'ai adoré conseiller ce livre à des gens qui aiment justement ce décalage et cet humour. Après nous avoir parlé de vieille, est-ce que vous pourriez nous parler de jeune, votre dernier petit fanzine ? Merci.
Merci à vous, Gwendoline, qui est libraire. C'est pour ça qu'elle parle de conseiller le livre. Eh ben oui, parce qu'en fait, à côté de vieille, je place jeune. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce petit fanzine ? Il se trouve ce fanzine ou pas ?
Alors, il se trouve en...
Pas facilement.
Pas évident. En fait, c'est un fanzine que j'ai créé donc pour l'exposition rétrospective à Colomiers. J'avais envie de marquer le coup et donc voilà, je me suis dit je vais faire un... Et puis enfin bon, moi j'ai toujours évolué quand même dans un milieu de fanzina voilà, j'avais envie de faire ça et ça m'a questionnée pendant un moment et voilà, tout d'un coup ça m'est apparu, je l'ai appelé Jeune. Et donc il raconte un petit peu ce qui s'est passé donc avec le fait, donc c'était pas prévu pour moi, que au même moment de la sortie de Vieille, on me propose dans le festival BD Colomiers, qui est un excellent festival de BD indépendante près de Toulouse, on me propose de faire une grande rétrospective de tous mes livres, voilà. Ce qui m'a fait un petit choc, voilà, parce que je me trouvais un peu jeune pour avoir une grande rétrospective. Donc j'étais à la fois très flattée et en même temps, donc le combo de ces deux, de la sortie de Vieille et de cette rétrospective m'a beaucoup secouée.
Oui, vous dessinez ce coup de fil que vous recevez dans lequel vous vous dites « Ok, super, génial, consécration, mais du coup je vais mourir en fait ».
Ouais, c'est ça, il y avait un petit côté, j'avais l'impression qu'on allait fêter mes funérailles pendant ce festival. Et donc voilà, et donc j'ai fait ce petit zine qui fait 20 pages. Et qui est largement autobiographique, ce que je fais pas d'habitude dans mes livres. Voilà, bon, léger et qui raconte donc effectivement un peu ce qui s'est passé dans ma tête quand on m'a proposé cette exposition et puis l'avancée du travail avec le commissaire d'expo et tout.
Et il y a cette petite fille qui veut fuir l'agitation, cette jeune femme qui fait des petites BD pour passer le temps, cette Madame Panique qui n'en revient pas qu'on s'intéresse à ses petites BD, et cette vieille qui se demande comment elle en est arrivée là. Ta gueule. Il y a quand même quelque chose aussi, à la fois, moi ce que je trouve frappant à la fois dans ce fanzine et dans la BD, c'est la possibilité de raconter une vie en 3 fois 4, 12 Marie, en 12 cases. Il y a quelque chose quand même qui est saisissant. Ça, c'est tout simple comme pouvoir de la bande dessinée, mais ça nous raconte ce rapport au temps.
Ouais, bien sûr. Alors en réalité, c'est pas en 12 cases parce que là, ce que vous venez de lire fait référence à des pages qui sont avant dans le fanzine et aussi au fait qu'il y a le livre Vieille. Voilà, donc tout ça est quand même.
Oui, mais voilà. Ça le ramasse.
Ouais, ça le ramasse dans cette page-là, ouais. Mais bon, je veux dire, il y aurait que cette page-là toute seule, ça ferait pas une, ça ne ferait pas une œuvre très. Très intense ou très touchante, quoi.
Je sais pas. Franchement, ça se discutait.
Ah ouais. Bon, on en discutera.
On voulait vous faire entendre une dernière fois la voix de Simone de Beauvoir. C'est 10 ans plus tard, et elle parle du désir et l'imagination.
Quand je compare ce qu'a été ma vie à ce que rêvait l'adolescente que j'étais à 15 ou 16 ans, bien que cette vie ait rempli toutes les promesses que je me faisais à ce moment-là, eh bien, il y a, alors je crois que je cite les vers de Mallarmé, ce parfum de détresse que même sans déboire et sans regret laisse la cueillison d'un rêve au cœur qui l'a cueilli, quelque chose comme ça. Eh bien, c'était ça que je voulais dire. Et je m'en suis expliqué d'une manière, on pourrait dire, alors plus philosophique, en citant aussi un texte de Sartre, je crois, dans L'être et le néant, c'est que l'avenir, quand on le rêve en tant qu'avenir, c'est quelque chose vers quoi on tend, c'est quelque chose qui est paré d'un tas de mirages. Et même si l'avenir s'accomplit, exactement comme on l'avait rêvé, ça n'est plus le rêve puisqu'il est la présence, il est là, il est limité à lui-même, il devient quelque chose de fini, alors que le désir et le rêve sont quelque chose d'infini. Donc il y a un décalage entre l'avenir prévu, souhaité, espéré, désiré, et l'avenir réalisé qui est devenu le présent.
La voix de Simone de Beauvoir qui parle de ce décalage entre le désir d'avenir, la manière dont on se rêve quand on est plus jeune et puis la manière dont on peut regarder ce qu'on a réalisé quand on est plus âgé. Cette vieille que vous dessinez, Delphine Panique, à un moment donné, elle est prise comme dans une sorte de brume. Et dans cette brume se mêle à la fois sa mémoire, sa fantasmagorie, peut-être un peu sa somnolence et quelque chose de sa rêverie. Et ça augmente aussi l'espace d'une vie qui a été tellement rétrécie par la vieillesse.
Ouais, ça l'augmente. Oui, elles étaient compliquées en fait à faire ces pages-là parce que donc moi je fais tout ce livre où je me mets dans la tête d'une très vieille dame, mais en fait moi personnellement je sais pas aussi ce que c'est de peut-être d'avoir les sens qui sont réduits, la vision, l'odorat, enfin et je me pose la question, donc j'ai essayé de traiter ça avec cette brume. Bon, avec encore une fois une référence au Japon qui est quand même très présent dans ce livre et où il y a toujours des brumes tout le temps dans toutes les œuvres japonaises. C'était important pour moi de mettre de la brume. Et donc voilà, est-ce que ça, je sais pas moi, je saurais pas dire si ça ouvre son monde ou si ça le réduit, cette brume.
Avis aux lectrices et aux lecteurs. Et puisqu'on a parlé du fanzine jeune, on peut le commander via les éditions des Machines qui éditent des fanzines. Le book club continue. Et le book club continue avec un agenda. À cette heure-ci, on essaye de relayer des événements, des rendez-vous en lien avec le livre et la lecture. On voulait vous parler aujourd'hui de la 3e édition du Marché de la Poésie à Lille. Ça se tient du 12 au 14 décembre au Centre d'Art Le Tripostal. C'est le plus important salon du livre de la capitale des Flandres. Co-organisé par, d'une part, le Centre littéraire Escale des Lettres et l'association Circé, qui propose aussi le Marché de la Poésie à Paris. C'est un événement exceptionnel qui transforme ce grand centre d'art en un véritable village poétique. Pendant 3 jours, plus de 300 maisons d'édition, des poètes évidemment, des revues, des artistes venus de toute la région et de la France entière et de l'étranger. Grand rendez-vous pour célébrer la richesse et la diversité de la création poétique contemporaine. C'est une édition 2025 qui est dédiée à la mémoire d'Ian Monk, un auteur, traducteur et oulipien disparu en septembre 2025. On mettra évidemment le lien sur notre page du Book Club du jour.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On termine le book club en jouant à un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche la musique dans les livres et on le fait grâce à nos auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, c'est Didier qui joue avec nous. Il nous a envoyé une proposition d'extrait via le compte Instagram du book club et il a choisi un extrait d'un texte qui s'appelle « Les cambrioleurs » paru aux éditions Actes Sud cette année de Fabio Viscogliosi. Une douleur sournoise s'est installée au creux de ma prémolaire gauche. J'ai d'abord essayé de l'ignorer, mais elle persiste et je prends finalement rendez-vous chez Boss Platier, le dentiste de Mancini. Il m'accompagne là-bas un matin. La secrétaire nous oriente vers la salle d'attente où glougloute un aquarium plein de poissons tropicaux. Puis Boss Platier, un grand mec avec une queue de cheval, vient me chercher pour passer ma carie à la roulette. Pendant toute la séance, je m'accroche au fauteuil, les yeux fixés sur les enceintes qui jouent de la country en sourdine. Mancini m'a prévenu. Boss Platier n'écoute que ça. Je sors de là avec la lèvre pendante et sans autre idée, nous remontons à petits pas chez Kowalka. La maison sent la vieille godasse. La vaisselle s'entasse dans l'évier et le Leporello fantôme a retrouvé son carton au grenier. Après le vague espoir suscité par l'entrevue avec la perdrix, l'énergie retombe méchamment. Kowalka passe des heures à fumer devant la télé, avalant à peu près n'importe quoi. Ou bien, allongé par terre, les bras le long du corps, il écoute en boucle Sister Europe des Psychedelic Furs, un morceau lourd et lent qui vous englue dans son miel. Stupid on a Steinway, so sick upon a Steinway, the same as drown. See them talk. See them drown, see them drink and fall around up on the floor. Sister of mine, home again. Sister of mine, home again. Lonely in a crowded room. Merci beaucoup Delphine Panique d'avoir été avec
nous.
Merci
à vous.
Pour évoquer Vieille qui a paru aux éditions Misma, comme les autres livres En temps de guerre, Un beau voyage, Orlando. Et puis on a parlé de ce petit fanzine jeune que l'on peut commander aux éditions Les Machines. Aujourd'hui au son, c'était Mineta Djawara. À la réalisation, Vivien Demeyer, un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Garance Roubieux, Marianne Chassor, Léa Weisgruss, Mathilde Wagman et Jeanne Aléos. Pour continuer à converser avec nous, pour échanger sur vos lectures, pour nous envoyer des messages via le compte Instagram. La conversation est là-bas, animée par Alexandra Leibegovitch.